Bonjour à tous et merci de venir nous accompagner pendant cette heure où on va tenter d'une part de parler d'un sacrilège muséologique qui est l'accès tactile à l'œuvre sculptée. Et au-delà de ce sacrilège, j'espère que progressivement on va pouvoir entamer un certain débat pour faire en sorte qu'il existe une certaine permissivité, finalement, pour atteindre ces objets qui peuvent être d'ordre technique, scientifique ou encore ethnographique et bien sûr artistique. Alors, pour aborder ce thème, je suis en compagnie d'une part de Véronique Stein, qui est conférencière aux Pays-Bas et qui, à la suite de certaines difficultés personnelles d'ordre visuel, s'est intéressée à l'accueil des publics ayant aussi cette déficience. Et je suis également accompagnée de Cyril Gouillette, qui est en charge du service éducation et formation au Louvre, et avec lequel nous avons eu une certaine aventure en termes d'approche tactile à travers la galerie tactile et autres dispositifs. Et puis Philippe Pelletier, qui est conservateur au musée du Quai Branly, conservateur des collections de l'Insulinde et de l'Océanie, avec lequel nous avons eu aussi un certain parcours à travers notamment l'élaboration du programme de la rivière. Alors avant de laisser la parole à mes compagnons, je vais peut-être tout simplement évoquer pourquoi le sens tactile et en quoi l'approche du toucher permet-elle d'avoir une relation à la fois signifiante, mais aussi sensible par rapport à la découverte des œuvres ou des objets. Alors, je voudrais lever une certaine ambiguïté, une certaine mystification aussi autour du tactile. On se dit, oh là là, mais est-ce qu'avec le toucher, on peut vraiment approcher des formes? Qu'est-ce que le toucher peut permettre en termes de construction de l'image mentale? Eh bien, il se trouve que le toucher, déjà, il y a un certain temps, hein, au moment où les philosophes sensualistes se sont préoccupés de différents canaux perceptifs à la fin du XVIIe et tout au long du XVIIIe, il s'est trouvé que déjà certains, à partir de différentes observations très fines, ont pu décrire le mode d'appropriation des formes par le toucher. Et en particulier Denis Diderot a des passages particulièrement pertinents dans la lettre sur les aveugles à propos de ce qu'il voit, à l'usage, pardon, de ce qu'il voit, qu'il a publié en 1749. Diderot dit « Comment un aveugle né se forme-t-il des idées, des figures ?» Je crois que les mouvements de son corps, l'existence de sa main en plusieurs lieux, la sensation non interrompue d'un corps qui passe entre ses doigts, lui laissent la notion de direction. S'il glisse le long d'un fil bien tendu, il prend l'idée d'une ligne droite. S'il suit la courbure d'un fil, il prend celle d'une ligne courbe. Plus généralement, il a, par des expériences réitérées du toucher, la mémoire de sensations éprouvées en différents points. Il est maître de combiner ces sensations ou points et d'en former des figures. Diderot a pratiquement tout dit, ce qui est absolument fantastique. Évidemment, depuis, les scientifiques, à la fois psychologues comportementaux comme les neuroscientifiques, ont produit différentes recherches, investigations, et ils ont déterminé que la vision et le toucher avaient une amodalité, c'est-à-dire que il y a une unité d'information qui se crée à travers ces deux perceptions. Alors, évidemment, il y a quelques différences, mais comment cela est-il possible ? Eh bien, tout simplement parce que il y a, par rapport au toucher, différents aspects, hein, toucher qu'on appelle extéroceptif, qui concerne toute la peau. Et je vous signale que la peau, elle existe depuis la racine de vos cheveux jusqu'à la plante de vos pieds. Et d'autre part, il y a ce qu'on appelle le toucher proprioceptif, c'est-à-dire tout ce qui est ressenti à travers les muscles, les articulations, les tendons, etc. Et l'ensemble de ces parties du corps sont constellées de quantités de récepteurs très variés. Il y en a vraiment un très grand nombre. Et c'est les réponses de tous ces récepteurs filent vers le cerveau dans un lieu très particulier qui s'appelle le colliculus supérieur. Et il se trouve que cette partie du cerveau est la zone de transition de différentes voies perceptives, à la fois auditives, visuelles et tactile. Et justement, c'est dans cette partie du cerveau que se fait l'analyse, à la fois l'analyse des formes, l'analyse des tailles, l'analyse des directions et l'analyse de la localisation des objets. Et une autre analyse qui est en relation directe avec toutes ces données, à savoir sa propre position dans l'espace, la proposition de son corps dans l'espace. Donc, c'est pourquoi il y a cette relation similaire que l'on peut même qualifier de redondante par rapport à l'approche tactile et visuelle. Et il y a des recherches tout à fait intéressantes qui indiquent que cette relation tactile et visuelle se crée très très vite chez le petit enfant. Dès l'âge de 2 mois, on observe cette relation de manière très précise. Et il y a notamment actuellement un petit atelier qui est proposé à la Cité de l'architecture, où l'on montre des sculptures par le toucher, donc en absence de vision, et ensuite on propose une série de photos, et de manière immédiate, très très rapide, les personnes qui se prêtent à ce petit jeu reconnaissent très vite les photos qui sont en relation avec les sculptures qu'ils ont touchées préalablement. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour laisser un peu la parole à mes protagonistes, puisque le temps passe très vite, et j'espère que progressivement on arrivera à déterminer quelque chose au niveau de la permissivité du toucher, qui est actuellement, comme vous le savez, est un véritable interdit dans les espaces muséologiques. Alors, on va demander à Cyril, peut-être, de commencer.
Très bien. Bien, alors, je vais justement commencer par cette question sur la permissivité, puisque au Musée du Louvre, où je travaille, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs pour que les non-voyants puissent connaître les œuvres d'art, et particulièrement ce dont on va parler ce matin, enfin moi en l'occurrence ça sera plutôt la sculpture, et je laisserai Véronique parler des questions de peinture Et la permissivité, elle existe, je dirais d'une certaine façon, au musée du Louvre, dans certaines conditions, puisqu'il est possible de toucher une petite sélection d'œuvres originales, mais dans des conditions qui ne sont pas toujours très faciles, puisque ce sont les jours de fermeture. Et je dirais que toucher une œuvre originale, de toute façon, pose, alors, au-delà des problèmes évidemment de conservation inhérents à chaque œuvre, mais par rapport à certains matériaux qui auront pu être sélectionnés comme n'étant pas, je dirais, susceptible d'être endommagé par des touchés qui sont quand même très peu fréquents. Le problème, c'est ce que je vous montrais dans cette photo, c'est que bien évidemment, de par la qualité de certaines œuvres, soit monumentales, soit vraiment fragmentaires, c'est pas complètement une solution pour accéder au patrimoine sculpté. Donc, il y a une vingtaine d'années, nous avons mis en place une galerie tactile dans laquelle nous avons réuni des moulages d'œuvres emblématiques du musée, regroupées selon différentes thématiques qui changent régulièrement. Et je dirais que les œuvres ont été réunies pour leur qualité plastique, esthétique, pour leur format, pour leur accessibilité finalement. Donc, ces œuvres qu'on va retrouver dans une galerie, ramassée, hein, rassemblée, permet ainsi d'avoir un accès qui va être favorisé. Alors, un accès plus simple parce que tout l'espace est aménagé pour que la personne puisse y être autonome. Donc, on va travailler à la fois des contrastes visuels puisque on va considérer bien évidemment les publics malvoyants. On va considérer des contraste tactile, aussi bien en termes ergonomiques de bandes podotactiles, etc., et de rampes d'accès, en jouant sur des matériaux, en jouant sur des températures, entre le bois, la résine, etc. Et plus exactement, pour revenir à ces facsimilés, à ces moulages, nous avons décidé au fur et à mesure du temps, choisi de les rendre les plus proches des originaux, évidemment, surtout dans leur matérialité. Et si au départ les trois quarts des moulages étaient surtout en plâtre, aujourd'hui ils sont en résine et surtout dans une résine qui va être chargée de poudre de marbre qui va permettre de restituer un toucher relativement proche d'une statue en marbre. Pour ce qui est des bronzes, la solution adoptée a été de, dans la mesure du possible, remouler des œuvres en bronze de façon à avoir cette objet original, et puis aussi, cette matière originale, pardon, et puis aussi de la terre cuite, et quand c'est possible, essayer d'avoir des copies, donc qui ne sont pas des moulages, donc un peu moins fidèles par rapport à l'original, mais des copies qui peuvent être dans la matière de l'original. Alors, cette galerie tactile, elle est ouverte évidemment à tous les publics, parce que, comme le disait Oel à l'instant, ce sens du toucher est quelque chose qui est particulièrement intéressant pour découvrir des œuvres et trouve son équivalent visuel, mais en même temps va permettre d'obtenir un autre type de découverte et qui va pouvoir être, particulièrement pour les jeunes enfants, particulièrement pertinent pour découvrir des œuvres. Alors, c'est aussi, bien évidemment, cette galerie, l'occasion de découvrir de grands chefs-d'œuvre du musée du Louvre, de faire une sorte de panorama un petit peu de la sculpture, ce qui est un bas-relief, ce qui est une ronde bosse, de voir aussi les différentes techniques, les matériaux, je vais y revenir dans un instant, et les destinations des œuvres, les œuvres destinées à l'intérieur, les œuvres monumentales destinées plutôt à l'extérieur, des œuvres votives, des œuvres purement décoratives. C'est aussi l'idée d'avoir ce panorama rassemblé dans une seule galerie. La matière originale, donc je le disais à l'instant, elle peut être, grâce à certaines œuvres que nous avons en réserve, soit des copies, soit, une fois de plus, des moulages que nous faisons dans la matière de l'original, peuvent être donc en bronze ou en terre cuite. Néanmoins, pour certaines œuvres dont on a les moules et dont on ne peut faire que des résines ou des plâtres, la solution que nous avons trouvée est de mettre un échantillon de matériaux original à proximité du cartel. Ce qui fait qu'il y a toujours ce rapport possible à la matière. Alors, je voulais revenir un petit peu, développer un petit peu peut-être ce qu'a dit Oel sur ces modalités donc d'une lecture tactile, puisque je dirais, à l'inverse de la vision, il y a deux postulats, si je puis dire, dans la lecture tactile qui exigent, je dirais d'abord, un rapport au temps, on l'a vu, puisqu'on ne peut pas avoir une lecture immédiate et simultanée d'une forme, mais qu'il va falloir prendre le temps de l'envisager, de la découvrir. Et puis aussi, ce rapport qui est, je dirais, dans la proximité. Puisque quand on va toucher une œuvre, c'est bien la raison pour laquelle on a essayé de les rendre accessibles par rapport à un mobilier et une ergonomie particulière, toucher une œuvre suppose qu'on soit à côté d'elle. Donc il n'y a pas cette distanciation qu'on peut avoir avec la vue. Mais justement, cette absence de distanciation va permettre d'avoir une lecture beaucoup plus brute, de cette façon, beaucoup plus objective de la forme, puisque rien ne va échapper finalement au doigt quand on prend le temps d'aller investiguer une œuvre, ce que la vision ne permet pas toujours, puisqu'un éclairage défaillant ou un éclairage trop violent peut interpréter cette œuvre et en masquer un certain nombre de détails. Alors, je dirais qu'il y a un peu deux étapes dans cette lecture, qui est une lecture, une découverte, hein, je dirais d'abord plutôt synthétique, qui va permettre de découvrir, je dirais, un volume, savoir si c'est une ronde bosse ou un bas-relief, mais aussi en découvrir, je dirais, ses dimensions. C'est aussi, dans un premier temps, reconnaître une forme. Est-ce un être humain, un personnage, est-ce un animal, est-ce un objet que l'on touche, représenté, j'entends. Donc, c'est question d'échelle. Sommes-nous sur une échelle 1, si je puis dire, une échelle une grandeur nature, ou bien sommes-nous sur une réduction ou une monumentalité, ce qui, je pense, est une des choses les plus difficiles, d'ailleurs, à vraiment distinguer. Et puis, donc, ce rapport entre différents types de sculptures, ce qui est de l'ordre de la ronde bosse, dont on peut faire le tour, ce qui est de l'ordre du relief, dont on ne peut percevoir qu'un seul angle de vue, si je puis dire, un seul angle de représentation. Dans un deuxième temps, c'est plutôt une lecture, une fois que tout ceci est je dirais, acquis, hein, ce volume est à peu près défini, il va y avoir une lecture plus fine, plus peut-être digitale, qui va permettre de distinguer les détails et d'aller vraiment vers une lecture approfondie. Et c'est là aussi que cette question de matérialité de l'œuvre va prendre tout son sens, puisqu'on va peut-être aller jusqu'à reconnaître des styles différents, mais on va surtout aller jusqu'à chercher des détails qui sont des détails de l'ordre de la matière. C'est-à-dire qu'un certain nombre de sculptures, par exemple avec un personnage dans un contexte plus ou moins paysager, va nous proposer la chair, je dirais, à toucher, le corps, qui est relativement facile d'interprétation quand on fait le passage de sa propre peau à celle, à la fermeté, je dirais, des muscles représentés sur une sculpture, une cage thoracique, etc., des biceps. Bien.
La morphologie,
voilà. Donc, d'une certaine façon, des reliefs anatomiques dont on va réussir à trouver assez facilement la correspondance. En revanche, les choses, si je puis dire, se gâtent dès lors qu'on va vouloir toucher, on va rencontrer, plus exactement, une chevelure. Puisque entre la chevelure sculptée en marbre, par exemple, et la chevelure dans laquelle on va enfoncer ses cheveux dans une chevelure réelle, évidemment, il y a tout de suite une grande différence. Et cette différence, je dirais, on la comprend relativement vite, puisque elle est placée là où on s'attend à trouver la chevelure, c'est-à-dire au sommet du front, donc au sommet de la tête. Pour autant, certains quand même détails peuvent être délicats quand la chevelure se répand, quand le personnage n'est pas dans une position, comme on pourrait le voir par exemple ici, tout à fait, donc on voit ici l'icare de Slotz, c'est-à-dire cet icare qui est tombé sur un rocher. Et on va tourner autour et voir un petit peu les différents éléments qui sont représentés. Et là, se présentent d'assez grandes difficultés si on n'a pas tout à fait le contexte de cette sculpture, puisque le personnage est renversé au sol, la tête légèrement pendante, et le point le plus saillant de cette composition sont les genoux qui sont en hauteur. Ce personnage a un certain nombre d'attributs qu'il est difficile de retrouver uniquement tactilement. Par exemple, je pense aux plumes. Je pense au ruban qui vient les tenir. Quand la roche, à l'inverse, peut sembler quelque chose d'assez évident et très proche de la matière originale, du marbre, les plumes, au contraire, qui sont normalement soyeuses, duveteuses, etc., commencent à poser un problème. Mais je dirais, dès lors qu'on a une connaissance de cette iconographie, on s'attend à trouver des ailes à un moment ou à un autre, puisque donc les ailes d'Icare, comme chacun sait, sont la cause de sa chute, puisqu'il s'est approché trop près du soleil. Si on tourne autour de ces sculptures, de cette sculpture en revanche, il y a une chose qui est particulièrement étonnante pour le coup, et qui est une vraie gageure par rapport à ce que peut représenter un sculpteur, c'est une vague. Une vague, donc de l'eau, avec de l'écume, et je le montre sur cet angle de vue ici, cette vague qui vient lécher, si je puis dire, ou se projeter contre un rocher, et qui est certainement une des choses qui semblerait la plus improbable, je dirais, à sculpter, puisque par définition, en termes de matière solide, on est dans du liquide qui doit devenir solide pour la représentation. Alors je dirais que si l'œil arrive assez facilement, et pas toujours d'ailleurs, à distinguer, pas dans un premier temps je dirais, à distinguer et à reconnaître cette forme, il est évident que c'est probablement ce qu'il y a de plus compliqué à ne comprendre que par le toucher. Je veux pour un autre exemple aussi choisir cette sculpture de Jean de Bologne, qui est donc un mercure qui s'envole dans les airs, et ce mercure lui aussi peut sembler complètement, je dirais, aberrant ou disons difficile à toucher, en ce sens qu'il repose sur un socle qui est en fait une tête, la tête du dieu Éole, qui le propulse par son souffle. Et le souffle est ici figuré, est ici représenté. Ce qui fait que là aussi, on passe d'un état, je dirais, gazeux à un état solide, et ça suppose quand même de faire un transfert mental et d'imaginer que cette matière puisse, parce qu'on ne sait pas, après tout, à quoi ressemble l'air et comment on pourrait le matérialiser. Et donc là, le sculpteur a fait un choix qu'il va falloir, quand on le touche, expliciter et pour le comprendre. D'autant qu'ici, il y avait un effet visuel qui était... alors, cette œuvre était par ailleurs, fut un certain temps à Fontainebleau, et il y avait un effet visuel puisque cette œuvre était au centre d'un bassin et le souffle est percé de trous et par lequel se propulsaient des jets d'eau. Ce qui fait que l'air était à la fois matérialisé par cette petite pièce cette petite base de bronze, mais était aussi matérialisé par de l'eau et par ces jets d'eau qui donnaient cette impression que Mercure allait s'envoler. Voilà. Donc, ce sur quoi je voulais intervenir dans ce court laps de temps, c'était montrer comment, au fond, cette sculpture pouvait être tout à fait appréhendée par le toucher, mais qu'elle posait par moments quelques problèmes, je dirais, d'interprétation, dont on avait parlé à plusieurs reprises avec Oel, pour savoir, au fond, comment expliciter les différents matériaux représentés, puisqu'il s'agit bien de ça. Comment représenter des matériaux qui sont a priori très éloignés, je dirais, de ce que le toucher va donner dans l'immédiat. Hein. Autrement dit, les plumes, on aurait pu trouver aussi un exemple avec du feu, de l'eau ou de l'air.
Je pense, Cyril, qu'il est absolument essentiel d'accentuer justement l'importance d'une médiation circonstanciée pour permettre à celui qui découvre un objet, une sculpture, d'entériner sa signification, d'une part, et puis sa narration, la portée symbolique, etc. Et au-delà de ce signifiant, une fois que la personne a bien perçu tout cet ensemble, elle est libre de définir pour elle-même ce qui est de l'ordre de l'esthétique de l'objet par rapport à son équilibre, à l'équilibre des masses ou encore les rythmes ou les inflexions que l'artiste a exprimées à travers toute cette forme. Mais la médiation est forcément tout à fait essentielle pour, d'abord, en un premier temps, bien comprendre en quoi consiste l'œuvre. Merci. Alors moi, j'ai une autre démarche dans le sens où Cyril a beaucoup parlé, tout le moins je l'ai ressenti comme ça, de ce que la limite du toucher par rapport à la vue. Et comme moi j'étais voyante et que je suis devenue malvoyante, je vois maintenant tout ce que le toucher apporte en plus à la vue. C'est-à-dire que en touchant par exemple ici une peinture au musée Van Gogh, eh bien je découvre des aspects de ces peintures que je n'avais pas ressenti ou vu auparavant. Alors, le thème de ma présentation aujourd'hui, donc, c'est aux Pays-Bas et c'est toucher la peinture. Et comme vous l'avez vu, j'ai aussi le... Alors, je vais quand même... Voilà. Comme vous l'avez vu sur la photo précédente, voilà, depuis cette année, eh bien, il y a au musée Van Gogh des œuvres, donc des copies d'œuvres, et ce sont faits par des imprimantes en 3D, donc aux dimensions réelles, même le cadre est imprimé à l'original en 3D. Donc, de ce fait-là, on peut toucher la peinture, et notamment Van Gogh, puisque les touches sont relativement épaisses et il y a de la matière. Donc, on peut sentir cette matière. Ce qui est très important aussi dans le toucher par rapport à la vue, enfin, quand on est non-voyant, c'est que ce qui reste, c'est la parole, et que tant qu'on n'a pas touché, eh bien, ça reste quelque chose d'abstrait qu'on peut seulement imaginer. À partir du moment où on touche, et par exemple la peinture, on comprend ce qu'est, par exemple, un empattement. On comprend les formes des différentes touches. Est-ce que c'est un point? Est-ce que c'est un trait? Est-ce que c'est une courbe? Ça, on arrive à le sentir sur les œuvres de Van Gogh. Est-ce que la suivante? Oui, voilà, merci. Alors, ce que je voulais aussi présenter avec cette image de décembre 2014, eh bien, c'est que les Pays-Bas ont un certain retard dans l'accessibilité par les handicapés, quel que soit le handicap, dans les musées. Donc, ici, c'est une rubrique innovation, où, qui est intitulée, comme vous le voyez, donc j'ai traduit, petite infirmité, pas de problème. Et donc, on voit, je l'écris pour Oël, qui est elle-même aveugle, donc on voit un musée qui a mis tous les tableaux au ras du sol, dans la salle, pour que le chien qui guide l'aveugle puisse voir les tableaux. Donc, effectivement, c'est assez drôle, mais ça montre l'importance, en quelque sorte, du médiateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accès direct à la peinture, l'importance du médiateur. Alors, autre différence, c'est que pourquoi ce n'est pas développé aux Pays-Bas ? Eh bien, tout simplement parce que les musées, depuis 15-20 ans, sont privatisés. C'est-à-dire que les collections peuvent être nationales ou municipales, mais ils fonctionnent grâce à des sponsors. Alors, qu'est-ce qui motive un musée à faire des projets ? Parce qu'il y a le côté de ce fait-là commercial, il faut attirer, faire des entrées en quelque sorte. Eh bien, c'est le rôle social des musées. C'est-à-dire que, plus que le rôle, bien sûr, il y a toujours cet aspect culturel, mais il y a le fait que bon, les handicapés doivent avoir accès au musée, de façon à pouvoir parler, comme nous on discute d'une visite d'un musée ou d'une exposition, comme on discute d'une pièce de théâtre ou d'un concert. Donc il y a ce côté, plus que le contact avec la peinture, il y a l'ensemble, donc contacts sociaux. On va pouvoir mettre la suivante. Alors, de ce fait-là, les conférenciers comme moi sont en quelque sorte des petits entrepreneurs. Donc je fais partie de l'équipe de conférenciers du Rex Museum, du musée Frans Hals et du musée Van Gogh. Donc j'ai ces trois musées-là pour lesquels j'ai travaillé. J'ai essayé de faire des visites multisensorielles parce qu'effectivement il y a le toucher. Disons que si la vue ne marche pas, eh bien, on fait appel aux autres sens, donc aussi l'écoute et dans un moindre niveau l'odorat et le goût. Mais effectivement, tant que c'est seulement l'écoute, eh bien, ça reste abstrait. Et surtout, donc, pour commencer, j'ai contacté... Non, excusez-moi, j'ai contacté l'association Cubes, donc, qui est une action culturelle pour aveugles et malvoyants, qui a commencé il y a 25 ans dans un musée de la sculpture près de La Haye, donc à Scheveningen. Et ce que m'a dit la présidente, elle-même aveugle de cette association, on va dans les musées, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut qu'on vive quelque chose. Écouter, on peut très bien le faire chez soi, hein, des livres audio, etc. Donc seulement le côté audio, ça ne suffit pas. Donc ce qui m'a motivée. Et donc à côté, une image du musée de Eindhoven, Van Abbe Museum à Eindhoven, qui depuis novembre 2014, elle aussi organise des visites pour aveugles et malvoyants. Alors, on a vu, oui, tu peux changer l'air à dire. On a vu précédemment le musée Van Gogh qui, elle, a des copies 3D faites par Fuji, hein, donc l'entreprise. On a essayé au Rijksmuseum cette œuvre de Rembrandt, La fiancée juive, qui a été faite en copie 3D par l'Université de Delft. Or, cette œuvre du XVIIe siècle a été réentoilée, ce qui a appuyé les touches. Et donc, il y a beaucoup moins de relief que ce qu'on pouvait attendre. Et de ce fait-là, le Rijksmuseum n'a pas décidé de faire un accès au public malvoyant. Alors moi, je trouve ça un petit peu dommage. Et ça, c'est on voit la différence entre un voyant et un malvoyant. C'est-à-dire que pour un voyant, qui aussi probablement ont le toucher, la sensibilité des mains beaucoup moins développée, ben pour eux, ça n'est pas assez d'informations. Alors que pour un malvoyant ou un aveugle, eh bien, déjà, c'est toucher quelque chose de concret, donc une toile avec une matière, avoir l'idée des dimensions et un peu de la composition avec les quelques touches qu'on arrive à sentir. Et puis l'autre, au musée Franz Sals, donc c'est une œuvre d'une restauratrice, hein, c'est son diplôme, et on voit donc les différentes étapes de la réalisation de la peinture. Alors, les autres, donc comme on ne peut pas toucher la fiancée juive, le Rijksmuseum a des petits, tout petits, ça fait 10 par 10, même pas 15 par 15, des tout petits carrés de peinture donc en toilé, et ça permet d'aborder la matière justement de la peinture, c'est-à-dire une toile et puis des pigments broyés. Alors les deux, le troisième, l'huile, c'est moi qui l'ai ajouté, mais voilà, je me base sur des visites faites pour les enfants. Et au Rijksmuseum, on a un grand panier et dans lequel on sort des choses pour les enfants, et entre autres, donc pour leur faire comprendre comment est faite la peinture, il y a la toile peinte, donc le cadre, la toile peinte, et puis vous avez à côté les pigments, c'est-à-dire qu'au XVIIe siècle, eh bien, les peintres fabriquaient eux-mêmes la peinture, donc vous avez une cochenille, une lapis-lazuli ou un morceau d'argile, et puis on fabrique avec ça, donc dans les trois petits tubes, de la poussière comme de la farine, hein, de la poudre de lapis-lazuli, de la poudre de cochenille pour le rouge, et de l'ocre avec l'argile. Pour la suivante. Alors, on connaît cette façon de travailler, et donc là, c'est une gravure du Rijksmuseum, où vous voyez d'un côté, qui est à droite, hein, à droite, vous voyez comment on prépare la peinture, et puis vous voyez le chevalet avec la toile tendue. Alors ça aussi, on peut voir la photo suivante, eh bien, ça peut se concrétiser au musée Rembrandt, toujours à Amsterdam, la maison de Rembrandt à Amsterdam, où on a recréé, quand Rembrandt a fait faillite, il y a eu un descriptif de sa maison, un inventaire fait pour la faillite, pour que ça soit vendu, et grâce à cet inventaire, on a pu reconstituer dans les années 90, hein, 1999 à peu près, on a pu reconstituer la maison, et donc là, on voit effectivement le chevalet, la toile, l'appui-main, et il y a des démonstrations de couleurs. Alors, comme le montre la petite coupe, c'est-à-dire que quand on a une toile de lin tendue, eh bien la toile peut absorber la peinture à l'huile, donc il faut mettre un enduit, il faut qu'il y ait dans les tons rouges. Pourquoi rouge? Parce que ce sont les l'ocre rouge et les piments les plus les meilleurs marchés en quelque sorte, et puis on fait une teinte grise. Alors tout ça pour rendre la toile aussi parfaitement lisse. Et pourquoi le gris? Eh bien parce que je dirais c'est entre le noir et le blanc. C'est-à-dire que quand on peint, on ne travaille pas sur une surface blanche, mais pour avoir des contrastes, on peut aller soit plus le noir, soit plus le blanc. Et puis vous avez la couche de peinture définitive. Et effectivement, les peintres du XVIIe siècle commencent à travailler par couches successives, fabriquaient eux-mêmes leur peinture, peinture très fluide avec beaucoup d'huile, sauf Rembrandt. Rembrandt va expérimenter, c'est ce qu'on a vu un peu avec la fiancée juive, et donc vous avez ce couteau à palette qui était fait pour mélanger les couteaux, pour mélanger les pigments sur la palette, mais pas pour l'appliquer sur la table, sur le panneau, la toile. Eh bien, Rembrandt, qui expérimente beaucoup, va appliquer avec ce couteau à palette cette peinture, et de ce fait-là, il modèle la peinture. Dans un deuxième temps, donc, nous avons d'un côté la matière, je dirais comme on avait la sculpture, et puis de l'autre, il y a la représentation. Et c'est pour ça que je fais appel à d'autres. Donc là, c'est on aborde une peinture du Frans Hals Museum, donc c'est là que j'ai commencé en 2013 à faire un concept qui est resté malheureusement dans les tiroirs, mais qui m'a permis d'avoir cette demande du musée Van Gogh, c'est-à-dire qu'ils avaient les représentations en 3D des peintures et ils m'ont demandé d'organiser des visites multisensorielles autour de cette peinture justement pour comprendre l'image. Oui, donc je sais, alors on va passer plusieurs parce que le temps passe vite, et donc je voulais vous montrer, bon, le contexte des Pays-Bas on le verra une autre fois, mais voilà, donc ça c'est une, toujours au musée Frans Hals, c'est des visites faites pour enfants, et donc avec des tableaux vivants. Donc on amène dans la salle, il y a quelque chose comme 4 caisses avec des costumes, mais aussi la nappe pour mettre sur la table et les différents objets, les assiettes, etc. Car, typique de Frans Hals, hein, c'est un portraitiste, les peintres étaient spécialisés à cette époque, et donc c'est un portrait de groupe de gardes civils. Donc, ça demande, on va passer à la photo suivante, voilà, hein, on a 12 gardes civils, donc j'ai ces 12 petites miniatures utilisées dans les maquettes d'architecture, et puis comment les placer. Donc de ce fait-là, eh bien, c'est aussi le problème, rentrer dans la peau du peintre pour faire cette composition, expliquer par là ce qu'est une composition. Alors on donne à ces 12 personnes un numéro, et c'est aussi alors 12, maximum 12 personnes de public qui ont ce numéro, et on va refaire cette scène. On passe à la photo suivante. Et on arrive donc, qu'est-ce qui est représenté? Eh bien, grâce à des images tactiles, grâce à des éléments. Donc il y a cette fraise qui est au musée, mais qui est là aussi un costume réalisé par une costumière au XXe siècle. Donc ça permet de toucher aussi la manchette du même costume. Et le verre qu'on appelle un Berkmeyer qui est refait actuellement, qu'on trouve en boutique. Et puis, vous avez le problème, effectivement, du toucher à main nue ou avec des gants. Et donc, vous l'avez peut-être vu dans la présentation de l'œuvre du restaurateur, eh bien, on touchait avec des gants. Donc, quand c'est des œuvres originales, se pose le problème donc, de toucher à main nue. Et c'est vrai que c'est pas du tout... Hein, qu'est-ce qu'on sent quand on touche avec des gants, on sent les gants. Donc on peut sentir la forme, les dimensions, des choses comme ça, mais on sent les gants. Donc je me bats moi aussi pour qu'on puisse toucher avec les mains nues. Je crois que je vais terminer comme ça.
Merci Véronique. Lorsque on m'impose de toucher des sculptures notamment ou des objets avec des gants, j'ai toujours une envie absolument irrépressible de suggérer que l'on oblige les visiteurs voyants à regarder les peintures avec des lunettes fumées.
Voilà, c'est vrai.
Par exemple. Philippe Pelletier voulait bien nous raconter ce qui se passe au Quai Branly.
Oui, ce qui s'est passé avec vous. Quand on a organisé le musée, effectivement, on a à un moment donné, dans le projet architectural, vu un chemin au milieu du musée qui avait été conçu par Jean Nouvel. Un chemin sur lequel, qui était une espèce de banquette très très haute, de petits murets, sur lequel on a décidé de faire un certain nombre d'installations plus particulièrement destinées aux non-voyants. Et je dis plus particulièrement destinées aux non-voyants parce qu'on l'avait conçu dès le départ aussi pour être fait pour les deux publics. Alors, j'ai pas de photo à vous montrer de ça, parce que quand j'ai dit à OL, il faut que je fasse un PowerPoint, OL, au téléphone, m'a dit non, vous faites pas de PowerPoint, les gens qui voient ne verront rien, et ils seront comme moi, et ce sera juste sur la description. Alors, elle m'a encore mis un challenge en plus. Ces banquettes avaient une particularité, c'est qu'elles étaient recouverte de cuir, ça c'est Jean Nouvel qui le voulait, et que donc nous on a dû se glisser dans cette surface de cuir et travailler en fait à partir du cuir. Alors, c'est là où c'est devenu assez intéressant, parce qu'il y avait toute une réflexion effectivement sur à la fois sur la matière, mais aussi une espèce d'unité de matière qui a été faite. Et puis, évidemment, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on pouvait faire là-dedans. Alors, l'une des premières choses qu'on m'avait dit, et ça, c'était une demande de Germain Viette, qui était le directeur du projet muséographique, Germain m'avait dit « Philippe, je ne fais pas d'œuvre. Je ne fais pas montrer d'œuvre. C'est pas le sujet, c'est pas le lieu. Les œuvres, elles sont ailleurs, mais elles sont pas là. » Et donc, ce qu'on a imaginé, comme on avait trois parties, c'était de diviser cet espace en trois espaces. Un où, sur lequel on aurait raconté, où on a essayé de tenter de raconter l'histoire des collections, et c'est surtout une installation sonore. Un deuxième espace sur lequel on a essayé de montrer d'expliquer ce que c'était que des espaces réels, tels que les gens les vivent, comment les gens les conçoivent. On a beaucoup d'espaces de la ville, d'espaces d'architecture. Et un troisième espace dans lequel on a essayé de montrer comment certaines populations imaginaient l'espace de l'au-delà. Qu'est-ce que c'est que comment on imagine ce qu'est le monde des morts ou le monde des âmes ou le voyage des âmes. Et on a par exemple une installation autour d'un voyage chamanique de Sibérie, mais il y en a d'autres aussi, je n'ai pas trop le temps de les développer ici. Donc, ce qui était un espèce de challenge pour moi, d'abord c'était de trouver des documents, parce qu'on voulait néanmoins avoir des documents qui étaient le plus près de la réalité ethnographique, hein, soit produits par les gens, soit par exemple, c'est des plans d'architecture de maisons, ça c'est assez simple, on a plusieurs types de maisons, comment les gens organisent leur espace de vie. Mais pour le reste, et surtout sur les projets imaginaires, on a essayé de trouver des documents d'origine, en fait. C'est compliqué parce que on est tout de suite limité à ça, parce que ça n'existe pas beaucoup. Les gens parlent de l'art imaginaire, mais des espaces imaginaires, mais ne l'ont pas vraiment réalisé. Toujours est-il que l'une des premières surprises que moi j'ai eues quand on a commencé à travailler avec OL et qu'on m'a expliqué, je ne connaissais rien du tout, j'étais complètement béotien dans cette histoire-là, j'avais été désigné un peu comme ça par... Non, ça m'intéressait, mais un peu par fonction. Et ce que m'a expliqué OL, en fait, c'est qu'il fallait avoir, quand on parlait de l'espace, deux approches. Que quelqu'un qui sent un relief doit avoir d'abord un espace global, concevoir l'espace complètement dans la globalité, et puis ensuite donc rentrer à l'intérieur de cet espace-là. Et donc on a fait tout un travail qui a été tout à fait fascinant, pour moi en tout cas, je pense pour tous les gens qui ont travaillé sur ce projet, de réinterprétation des documents que l'on avait, de simplification de ces documents, et d'arriver seulement à un certain nombre de points très précis qu'on voulait expliquer. Au fond, c'est comme quand, presque comme quand on écrit un texte, en fait. Hein, on a des idées très compliquées dans la tête, on essaie de les organiser, puis au bout d'un moment, on s'aperçoit qu'on a trop d'idées, donc il faut simplifier les choses et pour les rendre beaucoup plus claires. Alors, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et aussi en jouant effectivement sur les matériaux, on a travaillé avec un architecte qui avait était arrivé le premier jour avec des tas de modèles où il avait dit comment je peux agir sur le cuir, je peux le gratter, je peux l'inciser, je peux faire des inclusions dessus, je peux mettre des éléments en dessous qui sortent en relief, je peux, etc., etc. Et ça, c'était quelque chose d'assez intéressant pour nous, enfin même de très passionnant, c'est-à-dire de pouvoir indiquer aux gens qui sont donc sur des choses une fois de plus assez abstraites, hein, assez qui sont plus de l'ordre du plan ou du schéma, hein, qu'on a fait, indiquer au fond quand on changeait de matériaux. Le changement de sens que l'on pouvait avoir aussi vis-à-vis de ces matériaux. Hein, je crois que c'est ce qu'on a essayé de faire. Alors, évidemment, la limite du Quai Branly, vous la voyez tout de suite, c'est d'abord des schémas. Hein, on a fait relativement peu d'installations, on aurait pu en faire beaucoup plus. On est en face d'un système de simplification, et puis surtout parce qu'on est, mais on est toujours devant des systèmes très très compliqués. Ce qui paraît simple à nous tous les jours, l'organisation d'une maison, en fait, est tout à fait culturel. On peut écrire des livres en entier sur l'organisation des différentes maisons dans différentes régions. Hein, on s'aperçoit que c'est très très compliqué. On est effectivement vis-à-vis des choses qui sont de simplification. Et indiscutablement, on a besoin dans cette rivière, dans cet espace, d'une médiation qui est très très importante. Alors qui se fait. Le service des publics au musée du Quai Branly n'arrive pas vraiment à gérer cet espace parce qu'il faut des gens spécialisés en fait pour le dire. Hein. Et pour l'instant, ils n'arrivent pas. Les gens qui sont spécialisés sont partis. Je crois qu'ils n'ont pas formé de nouvelles personnes. Et puis le grand reproche, alors là je peux le dire évidemment, le grand reproche qui nous a été fait quand on a ouvert, hein, si bon souvenir, c'est que certaines personnes, où on a fait tester justement tous ces reliefs, les gens nous ont dit, mais nous ce qu'on veut voir c'est des œuvres. Et ça a été terrible. Voilà, je vous remercie.
Merci.